Bonjour, je suis Daniel Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 6e épisode de notre super format de l'été, Crème de la Crème. Vous le savez, avec ce format, on réunit dans un seul et même épisode des extraits d'épisodes que j'ai enregistrés sur une thématique spécifique. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de faire un tour d'horizon du growth marketing, donc cette discipline du marketing qui a pour but de générer de la croissance en analysant l'ensemble du cycle de vie d'un client, donc de l'acquisition à la rétention en passant par la recommandation. Sur ce podcast, j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes comme Yann Leonardi qui est consultant en growth marketing, comme Benoît Dubot qui est le CEO de Scalesia, comme Guillaume Moubèche, donc le CEO de Lemlist, et Arthur Samoro qui est growth marketer chez Lifeez. Tous m'ont appris des choses que je ne savais pas, à commencer par Benoît Dubot qui nous a partagé sa vision du growth qui est vraiment intéressante. Et en fait, dans l'épisode, il explique comment son équipe chez Scalesia modélise la croissance d'une entreprise selon 5 piliers, donc le marketing, la vente, le produit, le growth et ce qu'ils appellent le système. Pour chacun des piliers, on aborde avec Benoît ce qu'il est important de savoir. Donc, par exemple, pour le marketing, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un bon marketing et quels sont, par exemple, les pièges à éviter. On voit également qui est impliqué et quels sont les recoupements qu'il peut y avoir entre chacun des piliers. Avant de vous diffuser l'extrait, je précise que comme l'épisode est plutôt long, eh bien, nous avons mis dans les notes de l'épisode le chapitrage pour que vous puissiez vous rendre à la partie du podcast qui vous intéresse le plus. C'est parti! Pour toi, c'est quoi le growth? En sachant que dans ce que j'ai lu, tu opposes plusieurs visions. Tu as celle des USA, celle des Européens, le framework ART. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire avant qu'on passe vraiment à cette fameuse méthodologie que vous avez mis en place sur base de 5 piliers.
Yes, carrément. Alors, du coup, je fais référence à une vidéo qu'on a mise sur YouTube
Votre manifeste.
Exactement. Elle est un petit peu schématique, mais. J'introduisais le truc en disant que voilà, le growth tel qu'on l'entend aujourd'hui, il va se décliner de deux manières, de deux visions différentes. Tu vois, la vision très américaine et très produit, ce qu'on va appeler low touch, tu vois, donc produit tech, etc., qui vont être une vision du growth très portée sur le produit. Donc très très portée sur toute la partie tech, etc., et toute la partie expérience d'utilisation. Et tu vas avoir la conception, on va dire, européenne, tu vois, parce que c'est pas que franco-français, c'est aussi très prégnant en Europe, mais en France particulièrement, qui va être très porté sur l'acquisition. Et où, en gros, un growth en France, c'est un traffic manager, tu vois. Son rôle, c'est de générer du lead, c'est de générer du trafic. Et donc, voilà. Et donc, et ça, en fait, pour moi, c'est très, très, très limitant. Et c'est très débilitant, en fait, parce que c'est oublier déjà tous les autres leviers et tous les autres frameworks sur lesquels le growth marketer est censé travailler, c'est-à-dire pas seulement l'acquisition mais aussi l'activation, tu vois. Donc on reprend le framework ART, faire en sorte que le lead que tu vas générer il comprenne le plus rapidement et le plus clairement possible ce que tu peux lui apporter et pourquoi ce produit là que tu lui proposes, cette offre que tu lui proposes, c'est une opportunité de ouf et qu'il doit absolument la saisir. La rétention, faire en sorte que l'expérience d'utilisation elle soit tellement ouf qu'il reste le plus longtemps possible et qu'il soit tellement content que ça augmente aussi le referral, donc le quatrième levier, et qu'il fasse venir du coup un maximum de monde. Et donc en fait on a vraiment cette vision très très décorrélée, tu vois, très segmenté.
Étape par étape.
Ouais, c'est ça qui est assez problématique. Et en plus, de ça, on en oublie les autres, tu vois, les autres frameworks. On en oublie le fait que il y a, bah, tu vois, par exemple, un concept dont on parle très peu en France, c'est les boucles de croissance, tu vois, les growth loops, et qui sont, elles, plus corrélées aux produits. Mais tu vois, voilà, c'est des exemples de trucs qui montrent que on a une conception très séquentielle et finalement très très cloisonnée du growth et qui limite vraiment son impact et son effet. Pour moi, le growth, c'est une composante, c'est un des cinq piliers élémentaires, tu vois, de notre méthodologie, de notre conception. Je vais détailler les autres après. Mais en gros, le rôle du growth dans une boîte, ça va être non seulement premièrement un aspect méthodologique. Donc, le rôle du growth, c'est quoi? C'est d'amener cette approche expérimentale, scientifique, data-driven, où l'objectif, ça va être, tu vois, donc de multiplier les expérimentations. Et ces expérimentations, elles peuvent être à la fois marketing, produits, ventes, etc. Okay. Mais vraiment d'amener cet état d'esprit et cette méthodologie de, on va tester un maximum de trucs de façon méthodique et on va mesurer et on va scaler ce qui marche. Un aspect ensuite tech, engineering, où on va automatiser un maximum de trucs, on va optimiser l'existant, ok. Et ça, encore une fois, bah ça, c'est ça à faire, ça s'applique pour sur le produit, ça s'applique sur la partie revenu, donc la partie sales, etc. Et ça s'applique au marketing. Et un aspect ensuite, purement, tu vois, optimisation, accélération des leviers de croissance. Donc ça va consister à identifier les différents leviers de croissance de la boîte, ok, qu'est-ce qui permet à la boîte de grossir sereinement, tu vois, quelles sont les métriques à faire grossir en priorité, à modéliser ce truc-là, et puis après à coordonner les énergies, à coordonner les efforts au sein de la boîte pour que ces métriques augmentent, tu vois. Donc en fait, il y a, tu vois, le growth, pour moi, toutes les boîtes n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un growth marketer au sein de la boîte, mais par contre, c'est vraiment un état d'esprit, une méthodologie qui fait toute la différence. Et donc, c'est pour ça que nous, on l'a vraiment inclus en tant que pilier dans notre conception.
D'accord. Ouais, c'est pas juste du marketing, c'est beaucoup plus que ça. Le growth, en fait, c'est tout ce qui relie ta marque, ton produit, les automatisations, le marketing, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est pas juste se cantonner à faire de l'acquisition aussi. Je pense que c'est assez bien dit. Après, il y avait une autre chose qui m'intéressait en tête, c'est le growth loops. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste du referral ou est-ce que c'est autre chose?
En fait, tu vas avoir différentes échelles de growth loops, tu vois. Mais traditionnellement, tu vois, pour schématiser, une growth loop, c'est une boucle. C'est une boucle qui va tourner en continu et qui va faire que dès que tu vas amener un nouvel utilisateur, dès qu'un nouvel utilisateur va arriver de façon organique, les actions qu'il va réaliser avec ton produit ou avec ton service vont de la façon la plus systématique possible générer un nouvel utilisateur. Tu vois, il y a plein d'exemples de grosses loops, mais tu vois, le plus traditionnel, ça va être parrainage. Un référent organique.
Ouais,
tu vas avoir le parrainage, tu vas avoir l'affiliation, etc. Tu vas avoir, par exemple, j'ai utilisé un outil qui s'appelle StreamYard sur la version gratuite. C'est un outil pour faire du stream, tu vois.
Ouais, ouais.
Sur la version gratuite que j'utilise pas, mais aussi, voilà. Tu vas avoir le logo en haut à droite pendant tes streams. Ça, c'est un exemple tout bête d'une grosse loop.
Ouais, je vois. Très bien.
Qui va augmenter la visibilité de ton produit, donc l'awareness et donc le nombre d'inscriptions, tu vois. Et donc le rôle d'un growth marketer, ça va être d'identifier les potentielles boucles de croissance pour faire en sorte de les multiplier et faire en sorte que la croissance soit le plus organique possible, tu vois. Mais ça va être corrélé à énormément de choses. C'est pas que de l'acquisition, ça va être corrélé à un travail sur le produit, ça va être corrélé à un travail sur la satisfaction et l'expérience utilisateur, etc. Et donc ça demande vraiment un regard d'ensemble et pas seulement sur l'entrée du funnel, sur l'acquisition, le nombre de leads qu'on génère. Parce que tu vois, ça aussi c'est désastreux. C'est quand ta seule métrique, c'est de faire augmenter le nombre de leads ou le trafic sur une page ou quoi. Derrière, t'as aucune visibilité sur la pérennité de ces leads, sur est-ce qu'ils convertissent, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils recommandent, etc. Et donc tu perds complètement cette visibilité sur toute l'expérience client. Et au final, ça finit en gros coup d'épée dans l'eau qui rapporte pas grand-chose.
Non, mais c'est trop bien dit. Hein. Parce que je dis à des clients qui font la génération de leads chez nous et qui ne sont pas contents quand les coûts par lead augmentent, je leur dis, mais est-ce que tu connais ton revenu par lead? Est-ce que tu connais ton taux de conversion? Est-ce que tu connais par toutes ces choses, le taux de conversion de ta landing page? Mais parfois, ils ne le savent pas. Et ça, c'est un peu bête parce que, comme tu dis, on est juste concentré sur le nombre de leads entrants ou le nombre de nouveaux clients, alors qu'on sait très bien que la croissance, c'est pas juste ça. Mais vraiment, l'idée des growth loops, j'apprécie beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. J'avais déjà entendu parler, évidemment, de cette idée-là, mais pas exprimée de cette manière-là. Mais je trouve que, à mon avis, à la fois dans le service, tu peux aussi trouver plein de growth loops différentes. Et donc, si je comprends bien, c'est le rôle du growth manager, en tout cas d'une personne dans la boîte, d'identifier des nouvelles growth loops à mettre en place dans son entreprise pour avoir de la croissance organique. Parce que ça, encore une fois, on a l'impression qu'aujourd'hui, la croissance, c'est que du payant parce que l'organique, soi-disant, c'est mort, mais loin de là.
Ah bah carrément pas, carrément pas. Enfin, pour moi j'ai toujours, moi je dis toujours, tu vois, si on reprend, si on reprend le framework AR, moi j'ai tendance à rajouter awareness, tu vois,
Oui,
avant l'acquisition,
bien sûr.
Tu vois, parce que pour moi aujourd'hui, les deux leviers les plus puissants et les plus fondamentaux, ça va être ton awareness.
Ton brand finalement.
Ouais, donc toute la partie branding, toute la partie, vraiment l'objectif, ça va être d'occuper la place de choix la plus centrale dans la psyché de ton audience, tu vois, faire en sorte d'être évident et ce qu'on va appeler top of mind en anglais, tu vois, mais qu'en gros ils pensent à toi instantanément dès qu'ils ont un besoin qui est corrélé à ton produit, et donc ça c'est essentiel. Et le deuxième, ça va être la rétention, tu vois, parce que
c'est clair,
rétention égale, c'est tout simple, hein, tu vois. Rétention, ça signifie quoi? Ça signifie satisfaction client. Satisfaction client, ça signifie augmentation des revenus. Parce que ta LTV, donc la LTV, elle augmente. Donc la LTV, c'est quoi? C'est le panier moyen augmente. Donc ça fait plus de revenus, etc. Et satisfaction client, c'est corrélé à un referral qui augmente. Donc c'est corrélé à une acquisition qui augmente. Et donc au final, tout s'imbrique. Et donc à partir de là, si tu fais en sorte d'être vu par le plus de monde possible, la façon la plus répétée possible, de sorte à ce que les gens qui n'ont pas encore bossé avec toi pensent à toi dès qu'ils ont un besoin et dès que le timing est opportun de leur côté, et qu'une fois qu'ils bossent avec toi, ils soient tellement contents, déjà qu'ils pensent absolument pas arrêter de bosser avec toi et qu'ils en parlent autour d'eux, et en fait, ton acquisition, elle devient, c'est magique. Et là, elle devient très secondaire. Et ensuite, une fois que tu rajoutes à ça, du payant ou de l'acquisition, de l'acquisition intentionnelle, donc avec des campagnes d'acquisition directement, tu sais que chaque nouvel utilisateur va automatiquement t'en ramener X autres, et là tu divises par X du coup ton coût d'acquisition, et c'est gagnant, tu vois. Et c'est là qu'en fait tu vois une mécanique de growth loop à l'échelle de toute ta boîte et à l'échelle de toute ta stratégie de croissance. Et donc c'est pour ça que tu vois que le principe de growth loop, c'est quelque chose de très fractal, tu vois. Tu vas pouvoir le retrouver à différentes échelles, soit à des échelles très micro, à l'échelle de petites features, tu vois, de ton produit, ou à l'échelle macro, à l'échelle vraiment de toute ta boîte.
Oui, c'est clair que le referral, c'est un truc qu'on doit mesurer. Moi, par exemple, je ne le fais pas beaucoup. Je ne mesure pas le nombre de leads que j'ai qui viennent vraiment de clients ou de personnes qui me connaissent. Et je pense que c'est ultra important. Et comme tu disais, par rapport à la rétention, là aussi, je pense qu'il y a plein de métriques qui te permettent de mesurer ta rétention, mais aussi pour les agences et les consultants qui nous écoutent, c'est aussi le temps qu'ils passent chez nous. S'il y a une différence entre avoir un client qui reste 6 mois et un autre qui reste 18 mois, c'est totalement différent en fonction du panier moyen. Parce que si t'as un client qui te paye très très cher mais qui reste que 2 mois, c'est pas hyper intéressant, alors que si t'en as un qui te paye un certain revenu pour ta prestation mais qui reste tout le temps, c'est le top pour toi, quoi.
C'est ça. Donc, voilà. Et ça, c'est essentiel du coup d'avoir une visibilité là-dessus, et surtout au bout d'un moment d'identifier les patterns, tu vas te dire ok, quel est le point commun, tu vois, entre
ces clients. Ouais,
ouais, c'est ça.
Pardon.
Et pour te dire l'audience qui reste peu, je vais la mettre de côté, ou alors je vais adapter une offre spécifique pour bosser avec elle, tu vois. Mais parce que là, il y a quelque chose qui colle pas, tu vois. Mais c'est essentiel, à un moment donné, de savoir mesurer ça et de savoir prendre du recul.
Ouais, j'avais déjà écouté une vidéo justement hyper intéressante de la part d'un Américain sur le coup. Je me rappelle plus de son nom, mais sa chaîne YouTube, c'est Valuetainment. Et en fait, oui, il explique qui est le meilleur client, et il donne 3 clients. Il en donne un qui te paye super cher, mais qui est très négatif, qui est très toxique, mais qui te réfère à personne. Un autre qui te paye bien, mais qui parle pas forcément beaucoup de toi, mais ça reste une collaboration saine. Et une autre qui te paye pas aussi bien que les deux autres, donc beaucoup moins, mais qui parle de toi à tout le monde. et il dit qui est le meilleur client, et lui, selon lui, c'est celle qui te paye le moins, mais qui parle de toi à tout le monde. Et ça, on oublie parfois de mesurer ce genre de choses-là. Pour les agents, je dis bien.
Bah, c'est clair.
Pas que les agents en soi, pour tout le monde, finalement.
Bah, c'est clair. Et une quatrième, c'est ceux, et ça, je le vois tout le temps, c'est ceux qui ne te t'achèteront jamais rien, mais qui, par contre, vont te générer un référent de malade mental.
Exactement, ouais. Non, mais ça, c'est trop bien dit aussi. Je pense tu l'avais dit aussi dans une vidéo, et je me rappelle, je dis, ah, c'est smart qui dit là, parce qu'en effet, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont regarder ton contenu gratuit et qui vont jamais acheter, mais pour autant, c'est pas pour autant que tu ne dois pas bien les cajoler en quelque sorte et leur donner de la valeur.
Ça, j'aime bien. Franchement, t'imagines même pas le nombre d'opportunités qui nous viennent de gens qui, on le sait, ne nous ont jamais rien acheté, ne nous achèteront jamais rien, mais qui sont tellement fans de notre contenu et sont tellement dans une logique de réciprocité par rapport à toute la valeur qu'on leur a apportée qu'ils nous recommandent dans tous les sens, quoi. Et donc, au final, si on devait accoler une LTV à ces, entre guillemets, clients-là, elle serait juste démentielle.
C'est démentiel. Franchement, c'est une belle pépite, ça. Ça, je le garde pour un extrait parce que je trouve ça très, très intéressant. Et aussi, pendant qu'on parlait du framework art, pour ceux qui nous écoutent, on avait fait un épisode avec Yann Leonardi là-dessus. Épisode numéro 6, ça ne vous parle pas parce que je suis pas sûr qu'on va beaucoup l'aborder aujourd'hui. Donc voilà, Benoît, écoute, on est en piste pour les 5 piliers. Je veux bien qu'on en parle maintenant. Donc tu parles du fait qu'aujourd'hui, la croissance d'une boîte, elle repose sur 5 piliers. Tu as donné le premier pilier qui est le growth, mais il y en a 4 autres. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir ensemble ces 5 piliers. Et simplement voir en quelques minutes ce qui est important pour une entreprise de travailler au départ, enfin, les petits trucs, tu sais, qui sont importants de connaître.
Carrément. Carrément. Bah écoute, moi typiquement, généralement, j'aborde le growth en dernier, tu vois. Okay. Je commence en général par la partie marketing, tu vois. La partie marketing, elle s'émancipe pas mal de cette idée de simple acquisition, de simple distribution. Et en fait, pour moi, le marketing dans une boîte, c'est déjà pas du tout réservé simplement aux marketeurs. C'est vraiment un travail très entrepreneurial, tu vois. Enfin, pour moi, la porosité entre le marketing tel qu'on le définit de notre côté, la stratégie et l'entrepreneuriat, elle est très ténue, tu vois. Mais pourquoi? Parce que le bon marketing, c'est un marketing qui va s'axer en 4 points. Premièrement, c'est un positionnement. Donc l'idée, ça va être de positionner ta boîte, de positionner ton offre auprès du bon marché, auprès de la bonne industrie, tout ça au sein de la bonne catégorie. Et si jamais bah il y a aucune catégorie qui te plaît, et ben tu crées ta propre catégorie, tu vois. Moi je suis assez fan de ce concept-là et c'est pas mal débattu, mais je pense vraiment qu'on peut créer une catégorie parce que avant tout une catégorie c'est quelque chose de très mental, tu vois, très psychologique. Pas très facilement, mais tu peux créer justement une catégorie dans la tête de ton audience.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment la partie positionnement. Elle est vraiment essentielle parce qu'elle va dicter tout le reste, tu vois.
Donc par exemple, excuse-moi, je peux peut-être t'interrompre 2 petites secondes.
Yes, carrément.
Qui n'ont peut-être pas forcément ça en tête, mais on pourrait dire agence Facebook Ads pour les DNVB qui souhaitent scaler leur acquisition. Enfin, c'est un exemple, mais je pense que c'est un peu ce que tu dis. Tu as la catégorie, ouais. Tu as la verticale et ensuite tu as la problématique que tu résous.
Exactement. Et ça demande déjà un travail, tu vois, ça demande un travail d'étude, de recherche qui va être boosté par le quatrième point dont je vais parler. Ensuite, tu as la partie brand. Et la partie brand, elle est très oubliée mais elle est vraiment essentielle. La partie brand, en gros, c'est deux choses. C'est comme le dit Jeff Bezos, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce, et deuxièmement, c'est le premier mot qui leur vient quand ils pensent à ta marque. Et ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est un travail vraiment longue haleine et qui va reposer sur énormément de choses, tu vois, donc sur la définition de valeur, sur la définition d'une mission, une vision, un problème qu'on souhaite résoudre, un ennemi contre lequel on se bat, etc. Donc il y a plusieurs choses à définir dans ce travail de branding. Tout ça, ça va être ensuite encapsulé dans une brand voice, donc une tonalité de marque, un vocabulaire qu'on va développer, qu'on va systématiser, une identité, une esthétique de marque qu'on va réfléchir en directe cohérence avec tout ce travail-là de réflexion qu'on a fait. Et ensuite, ça va être desservi par le troisième point qui est la partie de distribution. Et c'est là qu'on arrive justement à, tu vois, toutes ces notions de canaux d'acquisition, qu'on va parler contenu, qu'on va parler SEO, etc. Mais en fait, ça va être vraiment le bras armé de ton branding et de ton positionnement pour venir le projeter auprès de la bonne audience au bon moment avec le bon message, tu vois. Tout ça, ça se nourrit en fait. Et en fait, comment est-ce que tu chopes déjà de prime abord les bonnes infos pour designer la bonne stratégie, et comment tu fais ensuite pour que cette stratégie elle reste à jour? Et ben par une recherche, une étude de marché qui doit être constante. Donc là je parle vraiment pas d'étude de marché, tu sais, à la Xerfi machin, tu sais, on envoie des questionnaires et tout. Non, c'est une étude qui doit être beaucoup plus organique, qui doit se baser vraiment sur la data. Tu vois, donc on va reparler de la data, mais qui est vraiment essentiel. Donc regarder comment les gens se comportent sur ton produit, regarder ce que les gens font sur ton site, regarder à quoi les gens réagissent au niveau de ton contenu, regarder à quoi les gens réagissent sur le contenu des autres, ainsi de suite. Donc vraiment de l'observation constante, une centralisation aussi des feedbacks, parce que tu vois, les commerciaux, c'est une mine d'or. Ouais. À la fois pour le marketing et pour le produit, parce qu'ils sont vraiment au front, tu vois. Et pour tes produits, pour les produits low touch, genre les SaaS, tu vois, les logiciels, le support, pareil. Enfin, vraiment, les marketeurs et les produits devraient passer leur journée sur Intercom pour étudier, tu vois, les tickets, les plaintes, etc. C'est une vraie mine d'or. Et donc cette recherche, cette étude de marché, elle doit être constante. Donc là, tu vois, on a les quatre piliers du marketing. Je sais pas si t'as des questions sur ce point ou.
Franchement, j'en ai pas, mais c'est super clair. Honnêtement, c'est super clair dans mon esprit en tout cas. Donc évidemment, et dans ce que tu as raconté ici, il y a des choses qu'on a déjà. Comment dire, j'ai déjà eu des invités dans le podcast qui ont parlé de ces choses-là, donc je vous laisse regarder les épisodes qu'il y a eu en cours. J'allais juste dire pour la partie brand, j'ai lu un super article sur le MVB qui était très pratique. Je pense que si vous tapez MVB sur Google, vous allez trouver cet article-là. Il a été écrit par quelqu'un qui travaille chez Iconoclast, je pense, un truc comme ça. Mais c'est assez intéressant, il vous explique les questions à vous poser pour définir votre MVB. Super article que je recommande et j'essaierai de le retrouver pour le mettre dans les notes. Et j'allais juste rajouter avant que tu continues, que étant donné qu'on parle de cinq piliers, il faut comprendre que les cinq piliers sont liés entre eux. Donc du coup, le marketing, imaginez un grand cercle à côté duquel il y a justement le deuxième pilier que tu vas nous partager.
C'est ça. En fait, c'est vraiment comme un diagramme, en fait. Tu vois. Et je l'ai même modélisé un jour. Un jour, je suis parti en freestyle, j'ai même modélisé sous forme d'un arbre, tu vois. Et ça boucle avec notre branding. Mais en fait, c'est, tu vois, la métaphore, elle est vraiment filée, quoi. Parce que ta boîte, elle doit grossir de façon homogène. Et donc, en fait, je t'expliquerai après quelles sont les différentes composantes de cet arbre. Mais imagine vraiment que ta boîte, ça va être d'abord une petite pousse qui va bourgeonner, qui petit à petit va former un tronc, des branches, etc. Et puis des embranchements de plus en plus petits. C'est vraiment cette idée-là, tu vois, d'organisme, tu vois, très écosystémique qu'il faut s'imaginer, et avec vraiment cette nécessité de grossir de façon homogène, parce que si t'as un déséquilibre à un moment donné, soit la branche pète, soit c'est tout l'arbre qui s'effondre, tu vois. Et donc vraiment, ça c'est une notion super importante, et c'est ce qui fait défaut à énormément de boîtes, tu vois.
Tu parles surtout de la data, on en reviendra après, mais tu parles du fait que les quatre piliers sont un peu reliés par la donnée, et qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne comprennent pas la donnée, quoi.
Ouais, c'est ça. Et dernier petit point sur la partie distribution. Ouais. Juste pour clarifier, il y a deux grands types de distribution. T'as la distribution de branding, où l'objectif, ça va être justement de te positionner, de faire tout ce travail-là, de diffusion de ton image de marque, tu vois, et de pérennité de ton image de marque, pour faire en sorte que les gens, ils pensent aux bons mots et qui pensent à toi quand ils ont un besoin. Et après, tu as toute la distribution qu'on appelle réponse directe ou direct response, tu vois, en anglais. Et c'est en gros directement aller chercher ton audience pour lui pousser ton offre.
Oui, voilà. C'est clair.
Et en fait, les deux, tu vois, le truc, c'est que les deux se nourrissent l'une et l'autre et elles ne sont pas mutuellement exclusives. Tu peux pas faire... Enfin, c'est une très mauvaise idée de faire ce que font beaucoup de boîtes, c'est-à-dire faire que de la réponse directe ou alors de faire que du branding. Et moi, j'aurais plutôt tendance d'ailleurs à dire que si tu devais choisir l'un au détriment de l'autre, de partir plutôt sur du contenu de branding, parce que c'est ce qui campagne le plus, tu vois. C'est ce qui t'apporte l'effet cumulé sur le long terme le plus fort. Et ça, c'est vraiment sorti, tu vois. Ça, c'est vraiment acté. Le fait que sur le long terme, tu vois, sur une échelle à plusieurs années, le branding, c'est vraiment le différenciant le plus fort. Et en plus, c'est ce qui te permet de t'émanciper de l'intensité concurrentielle, parce que tu vois, là où t'as beaucoup de boîtes qui sont dans une guerre des prix, dans une guerre à la feature, dans une guerre à l'innovation, tu vois, qui est une course qui est une course effrénée vers l'avant et qui est un jeu à somme nulle avec ses concurrents, si tu te crées ta brand, en fait, tu deviens évident aux yeux de ton audience, et en fait, tu te crées ton propre monopole, tu te crées ton propre marché et tu deviens ta propre catégorie. Et là, t'as plus de questions qui se posent.
C'est vraiment ça. Franchement, c'est vraiment ça, surtout dans les boîtes de services où tu as l'impression que le service, enfin certains services sont devenus des commodités, mais c'est pas totalement vrai, parce que si tu crées une marque très forte, tu pourras toujours être comme, pas forcément différenciant, mais comme tu dis, tu peux créer ta propre catégorie. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport aux deux types de distribution, bah, je pense que pour ceux qui écoutent le podcast, c'est en quelque sorte votre tunnel de conversion. Vous avez, même dans le contenu, vous avez des contenus tofu, des contenus mofu et les fameux contenus bofu qui sont les contenus à réponse directe. C'est pareil pour la publicité. Et il faut avoir un peu de tout et surtout ne pas penser qu'au bad funnel, donc c'est-à-dire la réponse directe.
C'est ça. Bah, je veux dire, pour moi, clairement, la brand, c'est le seul asset d'une boîte qui n'est pas commoditisable ou qui n'est pas en voie de commoditisation. Tout le reste, c'est soit déjà commoditisé, soit ce sera commoditisé à un moment. Que ce soit une feature, que ce soit une barrière à l'entrée technologique ou ce que tu veux.
Ouais, c'est ça. Donc commoditisé, pour ceux qui écoutent, je pense que c'est quelque chose qui sera en quelque sorte appliqué par tout le monde en quelque sorte.
Ouais, exactement. C'est ça qui ira de soi à un moment et que tout le monde aura, et etc. Et qui en gros sera plus une démarcation de la concurrence.
Ouais, très clair.
Donc là, c'est pour la partie marketing. Donc, tu vois, elle est essentielle. Et c'est essentiel que, tu vois, ça me fait sourire les boîtes qui disent, ouais, mais on a commencé le marketing très tard. Ouais, mais non. Enfin, tu t'es positionné sur un marché. T'as rapidement opté pour un logo. Le logo, il est quand même le fruit d'une réflexion. T'as réfléchi sur ton nom. Tu t'en rends pas compte, mais déjà, t'as fait du marketing, tu vois. Donc, le marketing, c'est vraiment, faut le faire. Plus tu vas le faire de façon consciente, même si t'es pas marketeur de base, avec les bons éléments, et le plus tôt possible, et mieux ça se passera. Ensuite, deuxième point, bah, t'as la partie produit. Donc le produit, c'est quoi? Bah, c'est, tu vois, le produit, en gros, c'est l'offre que tu vas formuler. C'est ce que tu vas vendre à ton audience. Donc ça peut être un produit, on appelle ça le product. Ça peut être soit un produit, tu vois, tech ou physique, soit un service, peu importe. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une méthodologie de product management. Où ce que tu vas vraiment mettre en place les systèmes, mettre en place la méthodologie et l'état d'esprit pour être constamment en recherche d'optimisation, d'amélioration de ton expérience client. Donc tu vas réfléchir constamment à comment optimiser l'existant pour faire en sorte que bah, les gens qui t'utilisent soient les plus heureux possible. Et donc du coup augmenter la rétention et donc le referral. Tu vois que tout est bouclé. Et pour optimiser pour développer l'existant, tu vois, pas seulement optimiser, mais faire en sorte de développer des choses annexes qui vont venir se rajouter, tu vois, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux pans à ton service, etc., et développer potentiellement de nouveaux services annexes, tu vois. Donc je sais pas, par exemple créer n'importe quoi, mais tu fais un service, t'as un service qui va optimiser des campagnes Facebook Ads. Bon bah, tu vas réfléchir à un service qui va former tes clients à faire de bonnes créas. Tu vois, j'ai dit n'importe quoi. Mais ça, c'est une logique de product. Mm-hmm. En fait, tu vas étudier un marché, tu vas étudier une opportunité de marché, tu vas voir comment exécuter tout ça, tu vas opérationnaliser le truc. Et donc, tu vois, ça se fait en direct synergie avec le marketing. C'est là que tu vois que tout est lié. Et donc, la partie product, elle est vraiment essentielle parce que bah, c'est ça qui te permet de rester à jour et qui te permet d'avoir un visu sur ce qui se passe et sur ce que les clients vont consommer en fait. Et ça, c'est un truc qui se passe dans assez peu de boîtes. Et on commence à amener cette approche product management en France, tu vois, elle commence à arriver petit à petit. Mais pour l'instant, elle est réservée vraiment à la startup nation. Alors que énormément de boîtes et surtout les boîtes de services gagneraient à avoir cette approche-là. Et ensuite, t'as la partie revenu. Donc là, c'est la partie revenu, bah ça va dépendre de encore une fois de ta typologie de boîte, tu vois. Donc là, on va prendre une boîte de service, bah ça va être toutes les composantes de ta boîte qui vont aller chercher l'argent. Donc ça va être tes commerciaux, tes account managers, ça va être tes customer success, tu vois. Ça va être tous ceux qui vont s'assurer que le deal avec les bonnes personnes se fasse, que le deal se pérennise et que ça re-signe en fait tout simplement. Et donc ça va être vraiment les gens qui sont frontalement là-dessus. Et donc, ça va passer par un travail sur ta stratégie commerciale. Ça va passer par un travail sur ton script, sur ton discours, le bon outillage. Tu vois, donc il y a une vraie partie ops, tu vois, qui est essentielle. Tu vois, sales ops. Et donc en gros, c'est comment tu fais en sorte que ta boîte, tes équipes soient les plus armées, soient les plus prolifiques possibles pour que leur revenu per capita soit le plus élevé possible. Donc ça, c'est la partie revenu. Quatrième partie, on en a parlé tout à l'heure.
J'ai une question sur le revenu, désolé de t'interrompre. Pour les ceux qui sont dans la formation en ligne, pour ceux qui sont dans l'e-commerce, pour toi, finalement, la partie revenu, dans ce cas-là, ce sont plutôt les fameuses pages de paiement, pages de vente. Est-ce que c'est ça que est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose dans ce cas-là?
Yes, exactement. Tu vois, donc là, exactement. Donc là, tu vois, ça va se. En fait, à chaque fois, tu vois, c'est un modèle qui est vraiment universel. Tu vois, tu peux l'appliquer à une association, loi 1900, tu vois. Mais ça va se décliner factuellement, tu vois, opérationnellement, de différentes manières. Donc ouais, un site e-commerce, tu vas avoir tout un jeu sur, comme tu l'as dit, le copywriting, sur la bonne gestion de tes pages de vente et sur toute la partie, tu vois, customer success, tout ton ticketing, tout ton service après-vente, etc. Tu vois. Voilà. En gros, c'est toutes les composantes qui sont frontales
au contact du client, ouais,
à ton marché et qui vont générer la vente ou non. Après, on en a parlé, quatrième composante, c'est le growth. Et au milieu de tout ça, tu as ce qu'on appelle la partie intelligence. La partie intelligence, c'est quoi? C'est tes process. Donc, en gros, comment est-ce que ces quatre piliers discutent entre eux? Tu vois, comment est-ce que tu transversalises tout ça? Toute ta partie data. Tu vois, donc data, c'est sur quelle data tu travailles avec quel stack, tu vois? Comment tu fais en sorte que tout le monde regarde les bonnes métriques et soit aligné autour des bonnes métriques? Tu vois, ce qui se passe très souvent, c'est que dans toutes les boîtes, tu as une organisation en silo où tu as les marketeurs qui vont avoir leurs métriques à eux, le nombre de leads générés, le CPL, etc. Tu vas avoir les sales, ça va être leur taux de closing, ça va être leur nombre de rendez-vous pris. Au final, voilà, chacun se tire un petit peu la bourre, personne ne discute réellement, personne ne se met autour de la table et c'est un problème. Et tu vois, un petit truc très concret que je peux vous donner, c'est un outil qui pour nous est genre, c'est une Rolls-Royce, c'est mojo.ai, tu vois, modjo.ai. Ouais. Et en fait, ça, c'est un outil qui va, c'est juste monstrueux pour les boîtes qui incluent un processus de vente. En gros, c'est un outil qui va se plugger à Zoom ou à n'importe quel outil de visio et qui va te rajouter dessus de l'intelligence artificielle et qui va retranscrire et décrypter tes appels de vente et qui te permettent de faire de la double écoute en asynchrone en fait. Et ça te permet d'identifier et ça te sort tout un tas de data sur le ratio entre ton temps de parole en tant que sales et celui de ton prospect, combien d'objections sont sorties, lesquelles, quel est le temps alloué à la discussion des objections, quel est le temps alloué à la découverte du besoin. Ça va te sortir tout un tas de statistiques. Et ça, ce qui est génialissime, c'est que en plus de cette partie-là macro, t'as vraiment cette partie micro où tu peux aller voir directement ce qui se dit pendant l'école. Et donc, mettons que t'es un sales, par exemple, qui a une effusion de génie, qui sort une punchline de fou, qui fait mouche et qui convertit le client. Ça, c'est un truc que tu peux utiliser pour faire évoluer ton script de vente et que les autres sales vont pouvoir utiliser. Mettons que ton prospect te sort une punchline, te sort un verbatim super intéressant, tu as un feedback, tu peux le faire remonter au produit pour améliorer le produit. Tu peux le faire remonter au marketing pour améliorer les campagnes, tu vois. Et en plus de ça, tu peux coacher les sales en asynchrone en leur donnant des petits commentaires, etc. Ça, c'est un exemple d'outil ultra intéressant parce qu'il transversalise ces quatre piliers et il permet à tout le monde de travailler sur la même table. Et donc, c'est pour ça que tu vois qu'il y a vraiment des applications très opérationnelles à cette méthodologie, mais que le postulat, c'est de faire en sorte que tout le monde soit aligné autour de la même ambition, autour des mêmes métriques, autour de la même data et des mêmes process, et éviter à tout prix le silotage, quoi.
Ouais, je comprends totalement. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure au début qu'il y a tous ces piliers, il faut les voir comme des grands cercles qui sont qui se rejoignent les uns des autres et du coup c'est qui ça. Sont avec au centre la donnée qui permet en quelque sorte de transversaliser toute l'information.
C'est ça, exactement. Et autour de ça, on a parlé des quatre piliers. Le cinquième pilier, c'est ce qu'on appelle le système entrepreneurial. Donc ça, c'est le truc que tout le monde fait, soit ne fait pas, soit fait de façon un petit peu, tu vois, sans trop s'en rendre compte. Mais en gros, c'est, tu vois, exactement comme un ordinateur. Imagine l'ordinateur le plus puissant au monde, tu vois, mais sur lequel t'as pas installé de logiciel de système d'exploitation. Donc imagine un iMac super puissant, etc., machin, qui coûte super cher avec un super hardware, mais sur lequel t'as pas d'OS. eh ben, tu peux l'allumer autant que tu veux, il se passera rien dessus. Mais en fait, le système d'exploitation, c'est ça. C'est tout ce qui va permettre à ta boîte de tourner de façon sereine et scaler de façon sereine. Donc, c'est plusieurs points. C'est premièrement déjà, c'est ta vision d'entreprise. Où tu veux amener ta boîte dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années, en gros, tu vois. Ça, l'échelle de temps, elle dépend déjà de l'âge de ta boîte et de son ampleur. Et la vision du monde, la vision que tu as pour le monde, en gros, et que tu veux, avec ta boîte, aider à accomplir. Ta mission, donc le problème que tu résous. Ok, et auprès de qui? C'est tes valeurs. D'accord, donc tes valeurs d'entreprise, donc tu as les valeurs business, tu as les valeurs humaines, tu vois, tu as ces deux grands pans-là, elles doivent être alignées avec tes valeurs branding, tu vois, donc cet alignement, il est vraiment essentiel parce que c'est le branding qui va permettre de diffuser tout ça au plus grand nombre. Ensuite, ça va être toute la partie process, et ensuite, tu as la partie people. La partie people, c'est quoi? C'est tous les talents que tu vas réunir dans ta boîte. C'est comment est-ce que tu les attires? Comment est-ce que tu les recrutes? Donc, tout ton process de recrutement. Et comment est-ce que tu les fidélises? Et comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils en fassent venir d'autres? Donc là, tu vois qu'on a aussi une application interne cette fois-ci du framework R à l'échelle cette fois-ci de tes équipes. Et donc, en fait, ton système entrepreneurial, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça va définir tout le reste. Tes valeurs vont donner un peu le là au niveau du code de conduite en interne, parce que les gens vont se comporter à la lumière de ces valeurs-là, tu vois. Donc, ça va définir ta culture. Les people, ça va te permettre de scaler de grossir de façon sereine et pérenne, en faisant rentrer les bonnes personnes et en sachant pourquoi tu les fais rentrer et pourquoi t'en fais pas rentrer d'autres. T'as toute la partie, et t'as le dernier point que j'oubliais, c'est la partie planification. C'est comment maintenant tu planifies d'atteindre cette vision. Donc, et en gros, mettre en place ce qu'on appelle la roadmap d'entreprise. Donc, une roadmap qui va inclure tous ces piliers-là, tu vois, dans un tout cohérent et qui va te permettre de savoir maintenant en semestre, en trimestre, en semestre, en année, ce que tu vas faire et vraiment échafauder à partir de cette vision un plan qui tient la route, tu vois.
Ouais, ça peut être les fameux OKR finalement, parce que certaines boîtes travaillent comme ça, c'est qu'elles ont des plans sur 3 mois, il y a des objectifs d'entreprise, puis après des objectifs d'équipe, et puis après des objectifs individuels, et à ça il y a des projets auxquels il y a des résultats clés qui sont rattachés en quelque sorte, hein. J'essaie de schématiser le mieux possible. Écoute, ce que tu dis là, vas-y, à dire.
Nous on a poussé le truc encore plus loin, c'est-à-dire que les OKR, en tant qu'outil, cette roadmap là, tu vois, ce concept là. Mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'un truc qui est la vision de la boîte. Donc, tu pars de la vision à 10 ans. Tu vois, si t'es une boîte early stage, tu vas partir plutôt d'une vision à 5 ans. Mais tu pars de ta vision à 10 ans et tu vas te dire, ok, ma vision, c'est ça. Dans 10 ans, je veux en être là. Ok, donc je sais pas, dans 10 ans, je vais avoir ma vision, c'est je vais avoir révolutionné la façon dont consomment le quinoa, tu vois. Ça, c'est n'importe quoi.
Okay.
Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper ces 10 ans en année, avec à chaque fois une milestone précise. Exactement comme les chapitres d'un livre où tu vas dire, je redescends le truc, année 10, du coup, j'en serai là, année 9, du coup, voilà la grande avancée de cette année-là, année 8, la grande avancée de cette année-là, de sorte à ce que chaque année s'imbrique les unes dans les autres et soit un palier vers l'accomplissement de cette vision. Et ensuite, une fois que tu as ça, déjà, tu vois beaucoup plus clair sur ce que tu dois faire de façon réaliste pour atteindre cette vision. Donc, déjà, tu es beaucoup plus serein parce que tu avances beaucoup moins à vue, en fait. Et après, tu vas commencer à découper de plus en plus. Donc là, tu vas prendre l'année 1, donc l'année à laquelle l'année où t'en es, en fait. Donc là, t'en es à l'année 1. Et ce que tu vas faire, c'est que maintenant, tu vas découper ça en objectifs. Donc tu vas dire, ok, cette année 1, ma milestone, c'est ça. Je dois accomplir ça. Voilà pour chaque pilier ce que je dois faire pour atteindre le truc. Donc tu vas définir le grand objectif par pilier. Et une fois que tu as ça, là, tu peux partir sur des OKR où tu vas définir chaque objectif. Tu vas définir tes OKR par trimestre sur cette année-là pour atteindre les objectifs qui vont, eux, t'amener à l'atteinte de cette milestone. Tu vois, de ta milestone.
Donc, pour toi, des OKR par pilier dans ce cas-là.
des OKR par pilier, et puis après, bah, tu priorises tout ça, tu vois, t'échelonnes le truc, et t'as ta roadmap de façon vraiment opérationnelle, t'as plus qu'à dérouler. Donc, en fait, on a vraiment mis en place un modèle qui nous permet de savoir très précisément où on va et de rien laisser au hasard, parce que, bah, tu vois, il n'y a rien de pire que d'avancer à vue et de te dire, OK, j'ai une vision, mais tu vois, c'est un peu brinque-ballant et tout, et au final, t'avances un petit peu la tête dans le guidon et tu te perds, quoi. Et donc, nous, en fait, on a vraiment mis en place ce process-là où, bah, quand nos clients viennent nous voir, on dégrossit vraiment avec eux cette vision, on déblaye le truc et on articule tout ça en un plan qui fait qu'à la fin, ils savent exactement où ils s'embarquent, dans quoi ils s'embarquent et où ils vont. Et c'est super serein pour tout le monde, quoi.
Vous connaissez maintenant les 5 piliers du growth selon Scalesia. Maintenant, je vais opposer ces 5 piliers au framework AR, qui en fait est un acronyme pour acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Donc c'est un modèle que vous pouvez utiliser pour optimiser les revenus de votre entreprise en passant par ces différentes étapes du parcours client. Et dans l'épisode que j'ai enregistré avec Yann, on est revenu sur comment le framework AR modélise l'activité de n'importe quel type de business, notamment avec les exemples suivants. Donc un business offline comme un coiffeur, donc c'est un exemple que Yann a partagé et qui était juste génial, et également un e-commerce, une application mobile, un SaaS B2B et mon préféré, le business de consultant ou d'agence. Allez, c'est reparti.
Framework AR, dont on va reparler maintenant, c'est la transition parfaite. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ce framework s'applique dans différentes typologies de business? Donc, on a parlé avant le podcast du fait que de base, beaucoup parlent du fait que le framework AR, ça peut fonctionner qu'en SaaS B2B ou que pour les apps. Mais finalement, est-ce qu'on peut l'appliquer dans un business offline? Donc, je ne sais pas moi, une épicerie ou un restaurant. Est-ce que ça peut s'appliquer pour un e-commerce, un service? Donc là, on a parlé de ton métier de freelance et moi pour l'agence. Comment est-ce qu'on modélise ce framework-là pour ces différents types de business? Je ne sais pas si tu en as un par lequel tu veux commencer pour nous expliquer un peu comment le
décomposer. Ouais. Bah, en fait, moi, depuis que je l'ai découvert, je l'ai découvert le framework en 2013. C'était pareil à The Family que j'ai découvert. En fait, maintenant, depuis que je l'ai découvert, ça a été une épiphanie et je le vois partout. Et c'est effectivement la plupart des. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au SaaS B2B et qui disent bon, bah, framework AR, ça s'applique parfaitement à SaaS B2B. Par contre, pour le reste, je ne suis pas convaincu, je m'en occupe pas, tu vois. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que ça s'applique à absolument tout et que c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on va en reparler, c'est-à-dire que tu as ton business, tu modélises ta croissance avec ce business, mais qu'en fait, il y a des petits AR qui vont s'ajouter. Si tu utilises différentes plateformes. Donc, je vais entrer dans les détails un peu plus tard, mais si tu veux, on va reprendre des types de business. Donc, évidemment, le SaaS B2B, c'est le plus adapté, puisque voilà, on fait venir des gens, et c'est lié au business model. Les SaaS B2B ont un business model en abonnement. Donc, du coup, c'est souvent un produit avec une version d'utilisation plus ou moins gratuite. Donc ça veut dire qu'on peut faire venir des gens, on peut leur faire utiliser le produit, et puis après du coup on peut les activer, donc leur faire comprendre la valeur ajoutée du produit avec un wow effect, voilà. C'est à nous de définir quelle métrique représente l'activation, en fait, tu vois. Mais une fois que tu as ça, après, du coup, tu les fais payer. Et puis après, tu as la rétention. Donc, il ne faut pas qu'ils churnent, il ne faut pas qu'ils se barrent, il ne faut pas qu'ils laissent tomber leur abonnement. Ça se présente très bien. C'est le modèle le plus efficace pour les SaaS B2B. Quand même, il faut quand même préciser que pour mesurer l'impact qu'on a sur l'ensemble de son activité et savoir ce que représentent les différentes étapes, il faut les définir au préalable. C'est-à-dire que acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu, c'est gentil, mais en fait, il faut estimer quelle est la métrique qui va représenter cette étape. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que voilà, l'activation pour Facebook, c'est 7 amis en 10 jours. Voilà. C'est eux qui l'ont décidé. Ils ont décidé que si tu avais 7 amis en 10 jours, à partir du moment où tu t'es inscrit, bah, tu étais activé. Ça, c'est eux qui l'ont décidé, et c'est-à-dire que chacun, quand il applique le framework AR sur son activité, il doit estimer à quel moment les gens sont activés.
Voilà. D'accord. Par contre, pour la question, c'est toujours le même. C'est un nouveau prospect, un nouveau client. Ouais. Enfin,
En fait, l'acquisition, en fonction de chaque activité, la difficulté, c'est qu'elle va se sous-diviser en différentes étapes. Ouais. Donc, si tu veux, on va parler d'applications mobiles. tout à l'heure. Si tu veux, on va repasser, on va faire les business un par un, comme ça tu verras les différentes.
Même pour tout le monde. Même pour le SaaS B2B, j'allais même te poser la question pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'était quoi un SaaS B2B? Genre, moi, je le sais, mais pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un logiciel de service, souvent pour les entreprises. Donc, ça peut être par exemple ActiveCampaign qui permet d'envoyer des emails et pour lequel on paye un abonnement tous les mois. Et en tant qu'entreprise, c'est rarement un particulier qui va l'acheter. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est des logiciels en ligne c'est software as a service, ça veut dire. Donc voilà, tu es lancé en ligne, tu as un logiciel, donc SEMrush pour faire du SEO, Mailchimp pour envoyer des emails, voilà, plein de trucs comme ça.
Exactement. Bon, écoute, prenons le premier business que tu veux voir.
Ouais, alors, le offline, je pense que c'est ce que les gens ont le plus de mal à imaginer, c'est le framework art sur un business offline. Une épicerie, un coiffeur, un truc comme ça, quoi. Donc, l'exemple du coiffeur est bien, parce qu'en fait, moi, j'avais reçu Jules Marigiano sur mon podcast, qui est donc VP Marketing de Phantom Buster, qui est un outil qui permet de faire du growth hacking sans coder. Ouais. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Et lui, il a parlé de son expérience avec son coiffeur. Et cet exemple est vraiment parfait, parce que on comprend exactement que toutes les étapes ont été réfléchies, non pas consciemment, mais le coiffeur l'a fait inconsciemment, mais il a vraiment tout coché. C'est-à-dire que voilà, le coiffeur se situe à l'étage d'un bar. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau acquisition, c'est qu'il choisit un endroit où il va avoir du trafic. Voilà, du trafic, c'est comme sur Internet. C'est-à-dire que tu choisis ton endroit pour avoir le trafic. Donc le trafic, c'est les gens qui vont passer devant. Donc il se met à l'étage d'un bar en sachant que les gens vont monter et essayer de chercher les toilettes. Voilà. Et en fait, donc Jules Marigiano arrive et du coup, il cherche les toilettes, il tombe sur le coiffeur. Ça, c'est l'acquisition. Activation, c'est la première expérience notable. Donc, il va rentrer. L'autre, tu dis, ça te dirait une coupe de cheveux, un truc comme ça. Donc là, expérience complètement différenciante. Il a jamais vu ça. Et il lui propose une bière. Il dit, ok, on est parti. Et donc là, il est vraiment accroché, il est vraiment activé par l'expérience qui est complètement jamais vue, tu vois.
C'est ça, faire quoi en prenant de bière.
Ouais, c'est ça. Après, ce que fait le mec, c'est qu'il fait une story de la coupe avant la coiffure. Okay. Il lui coupe les cheveux, il refait une story après en lui demandant son compte Instagram et en se taguant lui-même, en taguant la personne qui a été coiffée. Et là, du coup, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu de psychologie humaine, parce que finalement, le mec qui a été coiffé, du coup, il aura une excuse pour repartager la story en disant, c'est pas moi qui montre ma nouvelle coiffure, en fait, c'est juste que je repartage la story du coiffeur, en fait. Donc, en fait, ça le déculpabilise un petit peu de partager la story, tu vois. Et du coup, il va faire du référent, il va faire de la recommandation à tous ses amis sur Instagram, en mentionnant le coiffeur. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est que comment il fait de la rétention? Parce que vous allez voir que du coup, il a vraiment absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, il lui propose, écoute, nous, moi j'ai un abonnement, c'est 30 euros par mois, et tu viens illimité, autant de fois que tu veux. Et en fait, il se trouve que ça a l'air d'être sexy comme offre, mais du coup, en fait, tu vas pas tous les jours chez coiffeur, en fait. Tu vois, et Jules Marigiano me disait que lui, son budget coiffure, c'était 10 euros par mois avant. Et que finalement, il est passé à 30, et que des fois, il se force à y aller deux fois, et encore, quand il y va la deuxième fois, il n'y a pas grand-chose à couper, donc c'est réglé en 10 minutes, en fait. Ouais, c'est ça, mais ça paraît pas cher quand on ajoute l'argument illimité, tu vois.
Exactement.
Donc, du coup, il a optimisé le revenu, il a un business model en abonnement, donc rétention, il a absolument tout optimisé. Et voilà, ça, c'est un exemple typique de business offline, qui fait de l'optimisation de framework art, il fait de l'optimisation de croissance. C'est vraiment c'est magique, quoi.
J'allais dire, tu sais, pour les business offline, prenons les restaurateurs, comment est-ce qu'ils créent de la rétention? C'est qu'ils font tous des cartes de fidélité pour qu'on revienne.
Ouais, si tu veux, la rétention, ça va être le kebab, le 11e kebab gratuit, ça c'est de la rétention.
Clairement. Vraiment. Écoute, top exemple. J'avais jamais entendu ça, donc grand top exemple. Écoute, j'imaginais pas que tu allais parler d'un coiffeur, honnêtement. Donc génial. Tu peux peut-être passer à un autre business pour qu'on puisse voir un peu les différences.
Le e-commerce est aussi quelque chose que les gens ne pensent pas être transposable. Alors qu'en vrai, c'est tout à fait transposable. L'acquisition, on fait venir des gens sur la page produit. L'activation, c'est quand on a tellement bien travaillé sur le copywriting, sur l'identité visuelle, sur les arguments, que du coup, la personne elle va cliquer sur ajout au panier. Donc voilà. Activation, c'est quand la personne met ajout au panier.
Okay. Donc l'achat, c'est le revenu.
Ouais, c'est ça, l'achat, c'est le revenu. La rétention, ça va être comment on va faire en sorte que le client, du coup, va racheter sur le e-commerce. Tu vois. Et puis, évidemment...
Non, j'allais dire, on aurait pu parler de plein d'exemples, même dans la partie revenu, avec augmenter le panier moyen, ajouter des services en plus,
Exactement. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la partie à la fin du panier du checkout et qu'il y a écrit les gens ont aussi acheté ça, en fait ils essaient de faire du cross-sell, de l'upsell et ça c'est de l'optimisation de revenus, la dernière étape du framework, tu vois.
D'accord. Et puis après, quand tu as acheté un mois plus tard, on te renvoie un produit pour te cross-seller en plus. Donc admettons que tu as acheté un pantalon, on va peut-être te proposer d'acheter des chaussures en plus, ou admettons que tu as acheté une montre, on va te proposer des nouveaux bracelets. Il y a toujours une façon de cross-seller. Upseller, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas bien la différence, c'est vraiment le fait de faire acheter un produit plus premium. Donc admettons que tu veux acheter un iPhone 11, on va te proposer l'iPhone 11 plus grand ou avec plus de capacité. Ou si tu veux acheter par exemple des crèmes, admettons que tu prends un pot de 100 ml, on va te dire prends un autre pot de 200 ml pour la moitié prix. Donc ça fait augmenter le revenu. Donc c'est intéressant toujours d'en parler pour augmenter le revenu en tant que
ouais. Et tu vois, la rétention sur un e-commerce, ça se fait beaucoup. Je pense que la stratégie de contenu est indispensable pour un e-commerce. Et pour le coup, parce que la rétention passera uniquement par là. C'est-à-dire que la newsletter, comment tu reviens au contact, comment tu te fais pas oublier, comment tu vas faire coller les gens à tes valeurs pour qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux, tu vois. Et finalement, pour un e-commerce, la rétention, ça passe forcément par une stratégie de branding cohérente et de contenu qui en découle, quoi.
Ouais, clairement. C'est vrai que on le voit, hein, les meilleurs e-commerçants, ils produisent énormément de contenu, ils font beaucoup de newsletters. Moi, par exemple, j'ai beaucoup cité l'exemple de MVMT, la marque de montres, les montres. Et eux, ils envoient un torrent de newsletters, ils n'arrêtent jamais. Sur Instagram, ils sont extrêmement présents. Ils vont faire beaucoup de retargeting, donc c'est certain que le contenu en e-commerce, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, c'est ça. Et tu vois, ce qu'on pourrait utiliser aussi comme exemple, il y a l'application mobile.
Oui, vas-y.
L'application mobile, en fait, il y a une particularité parce que, par exemple, l'acquisition va se dérouler en trois étapes. Il va y avoir la visite du store, il va y avoir le téléchargement de l'application, et après, il y a le sign-up. C'est-à-dire que tu as trois possibilités pour perdre quelqu'un que tu avais réussi à faire venir sur le store, tu vois.
Super compliqué.
Et donc, tu perds des gens à chaque étape. Et en fait, il faut vraiment adapter le framework AR à chaque type de business pour savoir quelles sont les différentes sous-étapes et comment on les mesure. Donc, application mobile, c'est très simple puisque tu as donc visite du store, téléchargement, sign-up. Ça, tu peux le mesurer. Et tu peux améliorer que ce qui est mesurable, tu vois. Et c'est pour ça que, Awareness, par exemple, pour moi, c'est pas une autre étape. Souvent, tu vas voir le framework AR avec un troisième A au début qui est Awareness. Et pour moi, en fait, c'est de la même façon que pour une application mobile, on va pas commencer à mettre visites de store, ça fait V, T, et sign up, donc VTS, AR, tu vois, c'est n'importe quoi. En fait, c'est une sous-étape, tu vois. Et pour le coup, awareness, c'est dur à mesurer. Donc, si tu sais exactement c'est quoi ta métrique d'awareness, par exemple, j'ai une vidéo, les gens qui ont regardé 75% de la vidéo, j'estime qu'ils sont aware, tu vois. Ok, là, ça marche, tu peux le faire, mais dans ce cas, ça n'empêche pas que c'est une sous-étape de ton acquisition, tu vois.
Entièrement d'accord, l'acquisition. Avec la connaissance de la marque, du produit, enfin, un minimum.
L'acquisition, c'est tout ça. Et l'awareness, en fait, je pense que les gens qui ont inventé ce concept, rajouter le A de awareness, c'est des gens qui voulaient juste rebrander le framework AR, c'est un truc, c'est une technique de marketing de créateur de contenu. Tu prends un concept qui existe, tu le modifies, et après, tu dis, je suis pas d'accord avec ça, j'ai adapté le modèle de cette façon parce que je pense que c'est plus efficace, et en fait tu affirme ton expertise. Et en fait, il y a pas mal de gens qui vont être convaincus parce qu'ils ne sont pas experts, tu vois. Et en fait, c'est juste du rebranding. Ouais, c'est juste du rebranding de concept, en fait.
Mais justement, par rapport à l'application mobile, ce qui est intéressant aussi, c'est l'activation. Et ça, on en avait parlé en off, c'est que d'une application à une autre, comme tu disais, la métrique d'activation est différente. Si on prend par exemple Airbnb, c'est quoi la métrique d'activation pour faire un exemple, un bon exemple
sur l'application mobile. Ouais. Alors je sais pas si Airbnb peut vraiment être mis dans la catégorie application mobile.
Ouais.
Je pense que les meilleurs modèles, ça va être des apps consumers, en fait, genre je sais pas moi Zenly, des apps de jeux, des trucs comme ça, tu vois. En fait, ils vont identifier un peu comme Facebook, ils vont identifier que voilà, tu joues à tel jeu, quand tu as tué 3 mecs, et ben ça y est, t'es activé, tu vois.
C'est ça.
Et en fait, le but du jeu, souvent il y a des onboarding dans les applications mobiles. Et il faut te faire une action le plus rapidement possible, parce qu'ils ont estimé que cette action était la métrique d'activation. Et de la même manière que Dropbox, ils estimaient que quelqu'un était activé quand il avait uploadé son premier truc sur le cloud, tu vois. Et ben en fait, ils ont l'onboarding in-app est fait pour te pousser jusqu'à la métrique d'activation pour que tu comprennes la valeur ajoutée de l'application mobile pour toi.
Exactement. Voilà.
Et d'ailleurs, vas-y.
J'avais envie de te dire encore Uber. Donc Uber, finalement, vu que c'est une application mobile, du coup l'activation dans ce cas-là, ça pourrait être quoi? C'est le fait de faire une première recherche, mettre sa carte de crédit. T'as une idée?
Alors Uber, en fait, je pense que ça joue beaucoup. L'activation est pas forcément liée à une action sur Uber. Je pense que c'est la carte qui fait tout, en fait. Alors j'ai jamais vraiment réfléchi, mais moi, tout comme tu poses la question maintenant, j'essaie d'y réfléchir là. En fait, quand tu arrives sur Uber, tout de suite tu as la carte et tu vois des petites voitures qui se baladent à côté de toi. Et en fait, c'est des voitures bidons, en fait, elles n'existent pas, ces voitures, tu vois. Mais ça te donne juste l'impression qu'en fait tu es entouré de chauffeurs qui sont prêts à venir te chercher, tu vois.
Exactement, ouais.
Et je pense que ça doit beaucoup jouer dans l'activation. Tu vois, si par exemple, t'arrivais sur un autre truc qui va être juste « Donnez-moi votre destination » et qu'il n'y avait pas la carte avec les petites voitures autour, bah, l'activation, elle ne se ferait pas aussi bien, tu vois.
Là, je comprends, parce qu'on reprend la définition de l'activation, c'est comprendre la valeur ajoutée du produit. C'est bien ça, hein.
C'est ça, ouais, exactement.
Ok, exactement. Bon, je te laisse reprendre là où tu en étais.
Ouais, donc du coup... En fait, tu peux activer les gens sur une application mobile avec un onboarding in-app, mais tu peux aussi faire, et ça c'est valable un peu pour plein d'autres, pour les SaaS aussi, c'est valable pareil, tu peux faire ton onboarding et pousser les gens à activer avec des scénarios d'email aussi. C'est-à-dire que les gens, ils ont laissé tomber leur application, ils n'ont pas suivi l'onboarding in-app, bon, bah tu les relances avec des emails pour leur dire « Hey, t'as vu cette feature? Quand tu fais ça, ça fait ça. » C'est valable pour les SaaS, c'est valable pour les applications mobiles, pour que les gens, du coup, ils aillent le plus vite possible sur l'activation. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, voilà, du framework AR, Growth Marketing. C'est, parce qu'une fois que j'ai réglé ce problème d'activation, après, hop, je suis passé à comment je vais les garder, tu vois.
Comment tu vas les garder et comment tu vas générer du revenu à partir des gens qui sont activés. Parce que n'oublions pas que pour l'app, tu peux très bien faire quelque chose d'important dans l'application, mais ne jamais générer de revenus.
Exactement, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je vais un peu embrouiller les gens. Ouais. Quand tu as ton framework A, tu ne travailles pas les étapes chronologiquement. Tu ne fais pas, tiens, je vais faire de l'acquisition. Maintenant que j'ai des gens, bah, tiens, je vais faire de l'activation. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu essaies de faire un truc, voilà, tu as une sorte de MVP ou un truc, tu te débrouilles, tu vois. Et en fait, tu vas travailler la métrique qui déconne le plus à l'instant T. Donc, on va appeler ça OMTM, c'est One Metric That Matter. C'est que pendant une période, genre pendant 2 semaines, on va dire, voilà, comment on va faire pour améliorer cette métrique-là? Parce que c'est vraiment le churn, il est à 80%, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, du coup, il faut qu'on améliore la rétention. Donc, voilà, on va chercher des trucs pour améliorer la rétention. Et après, on change. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a amélioré ce truc-là, on va aller à l'autre métrique la plus critique à l'instant T. Et en fait, tu n'arrêtes jamais. Tu ne travailles pas le framework AR comme un truc chronologique, c'est que tu es d'abord sur la rétention, après tu vas à l'activation, après tu vas à l'acquisition, et tu te tiens le referral, tu retournes sur la rétention. En fait, ça ne s'arrête jamais, tu vois. Mais dans l'idée globale, Et ça va revenir un petit peu à ce que tu disais sur une application qui n'a pas de business model et qui pour le moment cherche juste à faire de l'activité et qui aura un business model plus tard. C'est-à-dire que en fait, tu établis une North Star métrique, donc un peu l'étoile du berger, c'est-à-dire que la métrique star. Et cette métrique-là, elle ne change jamais. Alors, si vous regardez un peu sur les blogs, vous verrez que les gens, ils confondent souvent North Star métrique et OMTM. Mais en fait, c'est deux choses distinctes. La North Star métrique, c'est la valeur qui a, c'est la métrique qui apporte le plus de valeur à ton utilisateur. Donc, par exemple, Spotify, YouTube, c'est le temps que tu vas passer à regarder des vidéos, le temps que tu vas passer à streamer. Et c'est pas le revenu, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas optimiser forcément le revenu. Tu vas, sur ce genre de produit-là, tu vas optimiser ta North Star métrique qui est YouTube. J'optimise pas la thune qui rentre, j'optimise le temps que les gens vont passer sur YouTube, tu vois.
Oui, puisque c'est ça qui fait qu'il y aura plus de revenus sur la
Exactement, mais en fait, c'est quand tu choisis ta North Star métrique, en fait, tu vas forcément, du coup, modifier tes choix stratégiques. C'est-à-dire que si tu as une North Star métrique qui vise tel objectif, mais en fait, tout ce que tu vas mettre en action vont aller dans cette direction. Et c'est important de pas se tromper de North Star métrique, justement parce que si YouTube n'optimisait pas pour que les gens restent le plus longtemps possible sur YouTube et qu'ils optimisaient pour un autre truc, bah, ils n'auraient pas fait les mêmes choix et ils seraient peut-être pas aussi bons, tu vois.
C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça. C'est pareil pour Facebook. Hein. Ils essaient de maximiser l'expérience utilisateur. C'est toujours ça qui revient. C'est on améliore l'application pour que les gens s'y sentent mieux. Et les annonceurs, oui, on optimise des choses pour eux. Mais bon, c'est quand même les utilisateurs qui passent en premier.
Exactement. Et en particulier pour une application mobile, bah, qui a pas de business model, tu vois. Une application mobile qui va juste rendre un service et qui se dira bon, bah, on verra quand j'aurai une communauté plus forte comment je monétise, ouais. Tu vois. Bah là, typiquement, c'est ça qu'il va falloir optimiser, quoi.
Ok, bah, franchement, très intéressant qu'on ait fait ce point-là. J'avais posé la question, je me suis dit, oh, je suis en train de complexifier le truc, mais franchement, t'as très bien expliqué. Alors, faut reconnaître que l'application mobile, c'est pas simple à expliquer sur comment ça se passe niveau acquisition, activation. Enfin, tu l'as expliqué un peu, mais on dirait que c'est du cas par cas. Ah, par contre, pour tout ce qui est rétention, recommandation, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, quoi. Rétention, on va te faire des notifications push. Recommandation, on va peut-être t'envoyer des emails ou te demander de partager ou de parrainer, comme avec Uber Eats.
Ouais, c'est ça, exactement. Très connu. Ouais. C'est-à-dire qu'on va te pousser à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très classique hein, sur les applications mobiles quand même. Mais justement, oui, l'important, ça va être justement de ne pas faire forcément comme les autres. C'est toujours la petite différence qui va faire que ça va changer, quoi.
Oui, c'est ça. Non, écoute, très intéressant. Franchement, on a bien fait d'aborder tout ça. Donc, il nous reste quoi un ou deux business models. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le mien. C'est freelance, agence. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être ?
Oui, alors là, du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va pas être beaucoup plus compliqué, ça va être juste très différent. Voilà, je me suis mal exprimé. Parce que tu peux pas avoir un gros flux d'acquisition. C'est aussi simple que ça, quoi. De toute façon, t'as des gens qui rentrent. Et en fait, les temps d'exécution, les temps pour les satisfaire, le temps de l'expérience client est très long. Donc tu peux pas vraiment être dans un process d'expérimentation rapide, tu vas pas faire des sprints d'une semaine sur un client qui reste là pendant 5 mois, quoi. Du coup faut avoir la vision globale du truc, c'est-à-dire que donc les gens te découvrent ton agence, ils arrivent et ils sont en théorie, voilà, ils sont plus ou moins, en fait ça dépend si tu fais de l'inbound ou si tu fais de l'outbound. Si tu fais de l'inbound, ils sont déjà un peu chauds normalement, tu vois. Donc du coup, l'acquisition s'est faite en inbound et tu n'as plus qu'à faire un peu de la réassurance. C'est la réassurance de ce qu'ils avaient déjà entrevu qui va servir d'activation, en fait, tu vois. Ils viennent vers toi et après, il faut que tu aies sur tes pages, tu aies tout ce qu'il faut pour les rassurer. Par exemple, voilà, moi, j'avais sur des pages, j'avais pas d'argument d'autorité, pas de testimonial, pas d'offre packagée, que dalle, tu vois. Ça, niveau activation, c'est pas génial, tu vois.
C'est que t'as attiré beaucoup de trafic. Enfin, t'as attiré du trafic sur ton site grâce à ta chaîne YouTube ou grâce à ton podcast. Donc, t'avais des prospects potentiels. Mais à l'étape où justement ils voulaient te contacter, donc l'activation, si je dis pas de bêtises.
En fait, ils te contactent, c'est l'acquisition.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais après, ils rentrent dans une sorte de process, tu vois. Et il faut que dans ce process, leurs questions soient levées, tu vois. Il faut que tu règles tous les problèmes un par un et que tu les rassures et que voilà, qu'ils soient rassurés pour aller plus loin, quoi, tu vois.
C'est ça, donc briser les objections. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Donc, en gros, freelance, agence, on fait de l'acquisition, c'est naturel, on envoie du trafic sur le site, on essaie de générer des prospects. À ce moment-là, ces prospects-là, ils arrivent dans un pipe et tu vas essayer de, soit tu leur parles, ou soit ils visitent des pages spécifiques ou ils remplissent des questionnaires pour voir si tu peux leur apporter quelque chose. Donc,
c'est l'activité. Et tu vois, moi, ça peut être vu comme, enfin, de mon point de vue, pour moi, ça peut être vu comme une stratégie. C'est-à-dire que, moi, je vais pas forcément, enfin, je cherche pas spécialement de clients, tu vois. Donc, du coup, je vais m'en servir comme filtre. C'est-à-dire que ceux qui vont quand même à avancer, je vais pas optimiser cette activation parce que je vais pouvoir filtrer justement les clients les plus motivés, en fait, tu vois. Okay. Donc, ça peut être un calcul, tu vois. Ça peut être aussi un calcul de mettre des freins dans l'activation, justement, pour filtrer les clients, tu vois. Ça peut être
des calculs. Avoir un process un peu plus complexe, on va dire, où les clients potentiels auront beaucoup plus de, je vais pas dire beaucoup plus de questions, mais des objections potentielles qui pourraient les empêcher de devenir clients, mais dans un sens, ceux qui passent toutes ces barrières-là, c'est des clients idéaux pour toi. Ouais, moi, j'avoue que, on pourra en parler, mais on en parlera même après, c'est comment optimiser tout ce process-là. C'est vrai qu'une fois que tu as compris le framework AR, comment tu le modélises, comment tu optimises. Mais par exemple, pour les freelances, on est d'accord que un truc qui est assez difficile, c'est l'acquisition.
C'est la rétention.
En fait, pour
les freelances, l'acquisition, ce n'est pas le plus dur. C'est la rétention, pour moi, le plus dur pour ce modèle-là. Parce qu'en fait, il y a des gens qui te contactent pour une prestation souvent. Et justement, si tu as packagé des offres, ils vont payer pour une offre packagée, tu vois. Ils veulent des livrables, ils veulent des trucs avec une fin. Du coup, toi, ton problème, c'est comment tu vas faire pour qu'ils continuent à être tes clients. Donc là, il n'y a pas de secret. En fait, il faut leur apporter une expérience client dantesque. Voilà, il faut que ce soit génial.
C'est vraiment ça.
Et il faut que tu aies prévu, du coup, en amont, d'autres offres packagées qui sont connexes, en fait. Parce que du coup, une fois qu'ils sont tellement contents d'avoir vu ça, et même des fois, tu as dû le rencontrer plein de fois, des gens ils disent ouais. « Ah, j'adore travailler avec vous, est-ce que vous faites pas ça en plus ?» Et toi tu leur dis « Bah non, je fais pas ça, tu vois. » Mais ça t'arrive souvent. Et en fait, tu peux théoriquement ajouter ces briques-là à tes offres packagées, et en fait, ta rétention se passe comme ça, se passe juste parce que les gens ils sont contents de travailler avec toi, et que toi, tu as prévu en amont d'autres prestations, et que tu peux les garder comme client en fait.
Exactement. Ou alors, tu te positionnes comme un partenaire de croissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis positionné dans mes offres. C'est on vous accompagne de A à Z pour gérer vos campagnes, mais on vous aide à développer votre acquisition, à augmenter vos budgets, à garder vos coûts d'acquisition constants au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que on évite, en fait, d'être juste un prestataire qui est là pour un ou deux mois préparer les campagnes et laisser le client s'en occuper. Ou, tu vois,
C'est effectivement une très bonne méthode. C'est-à-dire que là, tu vois, tu te poses, tu te dis comment je fais de la rétention. Alors première idée, je vais faire d'autres prestations. Deuxième idée, je vais me rémunérer sur les performances. Et coup, je vais leur proposer continuellement des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités pour augmenter. Et du coup, tu vas grossir en même temps qu'eux. Et tu vas même grossir tes revenus avec eux en même temps. C'est aussi une très bonne idée, ouais.
C'est vraiment ça. Moi, j'aime bien me dire que chaque mois, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau qui arrive avec le client, qu'on doit toujours montrer notre valeur chaque mois et qu'on peut pas juste, une fois que le client est là depuis 3 mois, qu'on se tourne les pouces et on laisse tourner les campagnes, on fait plus rien. Non, on montre toujours qu'on améliore notre service. Et sincèrement, je le crois vraiment. Donc, après, c'est vrai que d'un business à l'autre, en tant que freelance, on sait que c'est pas facile. Donc, on sait que parfois, le client vient juste pour une prestation, il vient juste pour, acheter 10 articles de blog. Après, il faut lui revendre autre chose, peut-être, mettons que tu as fait des articles de blog, tu vas peut-être lui vendre de l'acquisition, du trafic, une optimisation SEO. Donc, c'est vrai que c'est parfois pas facile, surtout quand on a des prestations qui sont moins récurrentes, comme celle que j'ai, qui est plus facile, c'est la gestion de campagne.
Mais tu vois, le problème peut être dans le produit également. C'est-à-dire que, en fait, dans ton type d'activité et dans le produit que tu as développé, tu peux créer toi-même des problèmes dans le framework AR. C'est-à-dire que si tu proposes une offre packagée de création de 10 articles de blog, tu vas attirer des gens qui potentiellement vont te demander ça et se barrer, tu vois. Tu crées toi-même les problèmes que tu essaies de résoudre après.
Et
d'ailleurs, c'est valable pour tous les types de business. C'est-à-dire que le SaaS B2B, pourquoi il y a des mecs qui veulent faire que des SaaS B2B? Parce que c'est un abonnement. C'est dans le choix de ton business, c'est-à-dire que dans le choix de ton business, tu sais déjà les problèmes que tu vas avoir en marketing, en growth marketing. Les mecs qui veulent faire que des SaaS B2B, c'est parce que eux, ils ont en fait une étape en moins dans le framework AR. C'est-à-dire qu'ils ont AARR, la rétention voilà, est réglée déjà.
La rétention, elle est automatique, elle est quasiment réglée. Mais c'est vrai que tu prends par exemple un business e-commerce qui cartonne, Yann, c'est Dollar Shave Club, ouais, ça s'appelle ouais. comme ça. Donc ils t'envoient des lames de rasoir tous les mois et tu payes ton abonnement, mais c'est trop marrant quoi. Je veux dire, c'est une fois que t'es un client, c'est à l'infini. Il doit toujours se raser, donc c'est, je trouve ça génial.
Ouais. Comme business. Mais alors tu vois ce business-là, la barrière à l'entrée, qu'est-ce qui empêche un autre business d'arriver et de faire la même chose? C'est le branding.
Ouais, le branding est tellement énorme.
Le branding de Dollar Shave Club avec sa, enfin, j'invite tout le monde qui écoute ce podcast à regarder la vidéo qui est hyper marrante quand ils sont arrivés. Ben voilà, ils avaient un branding très différenciant. Ils avaient très bien travaillé leur MVP, voilà, on peut le dire parce qu'on peut l'identifier.
Le fameux ennemi de
Gillette. Voilà. Exactement. Et en fait, du coup, et même dans le logo, t'as le club, Dollar Shave Club, t'as un truc un peu genre confédération avec les trucs et tout. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'appartenir à quelque chose, appartenir à une communauté.
C'est énorme.
Et c'est ça, à mon avis, c'est ça leur plus gros levier de croissance et de rétention, c'est le branding. Mais bon, tu vois, c'est pas scraper LinkedIn, quoi.
Ouais, on est totalement d'accord. Bah écoute, on a quasiment terminé sur les business models. T'as d'autres choses à ajouter sur le dernier qu'on a vu ensemble
de ce qui est... Ouais, on n'a pas parlé de recommandations, mais je pense que c'est... T'as dû le remarquer, mais pour un freelance, c'est quasiment... tu fais même limite plus de nouveaux clients en recommandation qu'en acquisition.
Entièrement d'accord. Même, donc là, la recommandation vient alimenter l'acquisition, mais c'est quand même énorme.
Ouais, et en plus, c'est des gens qui ont été recommandés par quelqu'un qui est un tiers de confiance. Et pour le coup, pour un business agence freelance, ça défonce tout au niveau valeur. Tu peux pas lutter. Et c'est bien pour ça que tu vois souvent des gens qui viennent de bouche à oreille parce que c'est le truc le plus efficace, quoi.
C'est très, très efficace. En freelance, agence, très efficace. Et je connais des agences qui se sont développées beaucoup grâce à la recommandation. Certaines qui ont utilisé leur réseau comme source d'acquisition. Moi, je dirais que la recommandation, tu peux aussi la provoquer quand tu es freelance. C'est-à-dire parler à des clients et dire, écoute, est-ce que tu as des personnes dans ton réseau qui pourraient être intéressées par notre service? Après, là, c'est vrai qu'on rentre aussi dans c'est le referral. Donc, recommandation, j'ai pas eu des rétentions, mais non. Donc, c'est bien du referral. Mais tu peux provoquer.
Non, c'est exactement ça. Tu veux le provoquer. Et en fait, c'est un peu le même principe que exploiter un peu chaque opportunité. C'est-à-dire que quand un client vous dit « Ah, je suis hyper content, machin », en fait, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire « Merci, merci » et passer à autre chose. En fait, il faut essayer de transformer ça en quelque chose et utiliser un peu le principe de réciprocité. C'est-à-dire que s'il est très, très content et qu'il l'exprime, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire « Ah bah, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez pas me recommander à quelqu'un, un truc comme ça ?» C'est à ces moments-là qu'il faut demander. Exactement comme dans les applications mobiles.
Ouais. Non, je vais dire, ou alors tu demandes des témoignages, des recommandations, quoi.
Oui, c'est ça. Tu prends des testimonials, des trucs comme ça. Mais c'est exactement comme dans les applications mobiles. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu une application mobile, et au tout début, en fait, on demandait, genre tu téléchargeais l'application, et tu avais direct deux pop-up qui arrivaient. C'était la pop-up activer les notifications push, et puis c'était la pop-up noter l'application sur le store, tu vois. Et en fait, il faut demander ces choses-là, il faut les demander à un moment où la personne est très contente. C'est-à-dire que faut identifier dans l'expérience utilisateur le moment où elle est contente, et là, tu lui dis « Ah, t'es content, bah, t'as qu'à noter sur le store, ou alors t'as qu'à activer tes notifications push. » Notifications push, on en a parlé, c'est pour la rétention, et les notes sur le store, bah, c'est pour augmenter le passage de visite du store à téléchargement. Donc c'est pour une des deux étapes de l'acquisition, quoi.
J'allais dire, ouais, c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'était, bon, pour ceux qui nous écoutent, c'était pas le bon moment de faire ces notifications-là, parce qu'elles n'étaient pas appropriées au bon moment.
Pas du tout.
Oui, on a plein de les... ça, hein. Ouais.
Tu peux être sûr que les gens, ils disent non en direct. C'est-à-dire que tu télécharges l'appli, tu as direct la pop-up, active tes notifications push, je te dis non. C'est sûr, je sais même pas pourquoi je ferais ça, quoi.
Mais exactement, mais il y a plein d'applications où ils vont te demander, ah, tu es content de ton expérience, ou alors tu viens de terminer, un achat, ou tu viens de réserver un Uber, ben, il va te dire, à quel point êtes-vous content de votre expérience? Il va te dire, ben, très content, puis après il va dire laissez-moi une note sur iTunes, et là c'est pertinent de le faire.
Ouais, c'est ça, exactement. Et on en revient toujours à l'empathie. Il faut se mettre à la place des gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer des demandes de trucs au mauvais moment, quoi.
Mon prochain invité pour ce prochain extrait, vous devez le connaître, c'est Guillaume Houbèche, l'homme qui a refusé 30 millions de dollars de la part d'un fonds d'investissement. Alors Guillaume, c'est le CEO de Lemlist, donc qui est un outil SaaS spécialisé dans la prospection B2B et qui s'est en fait développé de manière 100% organique, donc sans publicité, notamment grâce à leur blog et leur communauté sur le cold emailing. Dans cet épisode, on revient avec Guillaume sur deux stratégies growth qu'ils ont employées pour faire grossir Lemlist sans payer. Donc la première stratégie, c'est justement la création de ce qu'ils considèrent comme la plus grosse communauté en ligne autour du cold emailing, et cette communauté se trouve sur Facebook. Et la deuxième stratégie de growth qu'ils ont employée, c'est les webinaires gratuits que Guillaume organise avec des experts du cold emailing et qui leur permet justement de faire connaître un peu plus Lemlist. Voilà, c'est parti pour le troisième extrait.
Et par contre, la communauté, le groupe Facebook, ça c'est pas mal non plus. Vous êtes combien dedans ?
On est un peu plus de 14 000. Donc en B2B, c'est beaucoup, tu vois.
Ouais, c'est vrai que je ne réalise pas non plus en B2B combien. Enfin, oui, c'est quand même pas mal. Et c'est majoritairement une communauté anglophone, je pense.
Ouais, c'est full anglophone, ouais. Ouais.
D'accord. Et là, comment est-ce que vous utilisez ce groupe pour, pas dire pitcher, mais faire en sorte que vous ayez des nouveaux clients ? Parce que c'est aussi ça le but. C'est aussi...
Ouais. En gros, le groupe, il nous sert de deux façons. C'est déjà. La première façon, c'est, tu vois, d'un point de vue activation-rétention. Donc, les users, nos utilisateurs existants de Lemlist, on leur apporte des updates sur le produit, sur tout ce qu'on fait. On prend beaucoup de feedback. Donc, on leur montre aussi que leur feedback nous aide à faire le meilleur produit possible, etc. Donc, tu vois, c'est cette relation de continuité. Parce que, tu vois, ce qui est important, c'est que les gens restent quand ils achètent ton software. Ouais. et l'autre partie, sur la partie acquisition, c'est vraiment apporter un maximum de valeur, faire en sorte que les gens recommandent le groupe à d'autres personnes, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent et qui, par conséquent, vont rester, continuer et ensuite devenir clients au bout d'un moment.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y en a qui ne sont pas encore clients, d'autres qui sont déjà clients et qui donc vont devenir des utilisateurs, je ne sais plus comment on appelle ça, des super utilisateurs et qui vont donc aider les autres à utiliser l'outil ou à prospecter. Parce que je suppose que tu as des gens qui disent « Ouais, mais j'ai l'outil, je ne sais pas comment le configurer, etc. » Et donc, du coup, c'est clair que ça crée une énorme rétention. Mais je me demande vraiment à quel point ça attire des nouveaux utilisateurs par rapport au blog ou par rapport à des vidéos que tu as pu faire sur LinkedIn. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur, à mon avis, beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait d'avoir une communauté et de passer beaucoup de temps dedans, de la faire grossir. En plus, on le dit, hein, Facebook, c'est mort en organique, alors que finalement, la communauté, comme tu l'as dit, 15 000 personnes, c'est énorme.
Ouais. En fait, c'est assez intéressant. C'est un débat que j'ai régulièrement parce que tu vois, il y a ce côté, la pub, par exemple, la pub Facebook, ce qui est ultra rassurant avec ça, c'est que tu mets un euro, tu vois rapidement ton ROAS, tu vois rapidement ton ROI et c'est cool, tu vois, parce que tu peux mesurer tout ça. Tu vois, tu mesures ton retargeting, tu mesures tout ça. Enfin, c'est clair. Une communauté, tu vois, si tu me dis, OK, combien d'argent ça t'a ramené la semaine dernière ou il y a un mois? Comme je te dis, tu vois, mesurer la rétention, quasiment impossible de savoir le vrai impact de la communauté. Mesurer l'acquisition, à moins de mettre des liens bit.ly partout dans tout ce que tu partages, difficile. Comment est-ce que tu sais qu'un mec qui est sur ta communauté, à quel point ça l'influence dans... Moi, tu vois, je pars du principe qu'en fait, si tu passes trop de temps à mesurer des choses qui sont au final... En gros, tu vas pouvoir mesurer des trucs, mais ça sera que le bout de l'iceberg, quoi. Tu vois, que la partie émergée, tu vois. Donc... Le truc, c'est que tu as deux choix. Soit tu décides de te casser la tête à essayer de mesurer des choses qui, au final, te donneront pas le tableau global, mais juste un tout petit bout. Et donc ça, c'est un problème parce que du coup, ça veut dire que tu vas te focaliser sur des choses, seulement sur les choses que tu peux mesurer. Et donc, tu vas peut-être arrêter de faire le truc qui est le plus important. Soit sinon, tu te dis, OK, je me casse pas trop la tête à mesurer des choses comme ça. J'y vais et je garde. En fait, je sais que ça marche pour moi et je continue de le faire et je continue d'apporter de la valeur. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe d'un principe qui est assez simple en business, mais qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient parce qu'on veut être trop data-driven, etc. C'est que si tu apportes de la valeur à des gens et que si tu apportes une solution à un problème, les gens, ils vont acheter, en fait. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu vois, il y a un moment où si plus tu apportes de la valeur et plus tu es une personne qui est sympathique, qui va vraiment donner de son temps. En gros, tu as beaucoup de karma en business. Hein, tu vois, si tu fais des bonnes choses, il va t'arriver des bonnes choses. Et si tu fais de la merde, il va t'arriver de la merde. Et les gens l'oublient. Les gens pensent que, tu vois, toutes les personnes qui ont la vision du business, en gros, c'est un truc de requin, il faut s'entraîner. Enfin, pour moi, tu vois, ça, c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, c'est des gens, ils vont peut-être faire rapidement de l'argent pendant un an, mais après, c'est fini, tu vois, ils n'existeront plus. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que en business, les choses prennent du temps, mais si tu passes du temps à aider les gens, forcément, tu vas récolter des fruits.
Et c'est ça l'inbound, hein, c'est du long terme. C'est que c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais, mais qui s'accumule avec le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suppose que de passer de 5 à 6 millions par an, bah, ça a été beaucoup plus rapide que de passer de 1 à 2, parce que vous avez une grosse machine à contenu. Et comme tu disais, encore aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que vous investissez dans la publicité sur Facebook ou Google, etc. Alors que voilà, la machine de contenu, elle fonctionne.
Ouais, clairement.
Mais je suis d'accord avec toi par rapport au fait que c'est dur de tout mesurer, surtout l'impact d'une communauté. Moi aussi, je suis un peu le truc que j'aime bien mesurer personnellement, c'est sur mon Google Analytics, j'aime bien voir les leads qui proviennent des contenus, ça je pense c'est basique, ou les achats qui peuvent venir. Par contre, je suppose que vous le faites aussi, c'est quand vous avez un nouvel utilisateur, bah, vous lui demandez sûrement comment tu nous as connus, un truc comme ça. Et c'est vrai que si tu vois groupe, bah, c'est que le groupe il a aidé pour l'acquisition.
Ouais, ça c'est un truc, en fait ça m'avait fait marrer. On fait un peu la même chose sur Google Analytics avec les sources, etc. Et on a notre funnel qu'on track. Mais le truc de, tu sais, quand tu demandes aux gens, en fait ça te donne une idée. Mais une fois, je me rappelle, j'avais demandé à quelqu'un au tout début, parce que maintenant on a trop de clients payants qui tombent tous les jours. Mais c'est jamais trop, mais c'est juste trop pour faire ce genre de truc. Mais je parlais avec un client et je lui avais dit, ouais, où est-ce que tu nous as connus, un truc comme ça. Il me dit, ouais, je vous ai vu sur une pub. Et là, j'étais là, ah ouais, c'était quoi comme pub? Et dans ma tête, ça me faisait marrer parce que j'étais là, bon, on n'a jamais fait de pub. Ah, je sais plus trop, tu vois. Et là, t'es là, tu fais bon, ok.
C'est vrai aussi, c'est pas toujours crédible. Ouais, c'est pas toujours, tu peux pas toujours prendre ça au monde. T'as raison là-dessus, c'est que surtout quand tu fais de l'approche multicanal, ils pourraient dire LinkedIn alors que c'était un article qui les a convaincus.
Ouais, mais après, ça donne quand même un fil de.
Ah oui, c'est clair que si tu vois que l'article de blog, etc., tu sais que t'as quelque chose. Les webinaires, c'est quoi du coup? Tu peux expliquer qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là?
Ouais, du coup, nous, on a aussi des webinars où, en fait, ce qu'on va faire, c'est inviter donc des experts internationaux sur la prospection, la vente, le closing, etc. Et l'idée, en gros, c'est de faire des lives directement dans notre communauté où les gens vont pouvoir aussi poser leurs questions en direct. Donc, en général, ce que j'essaye de faire, c'est d'impliquer les gens dès le départ, tu vois, avec quelques questions pour essayer d'avoir un peu plus de reach, tout ça. Ensuite, j'ai ma partie interview que je fais en live. Au milieu, en général, j'essaye de poser 2-3 questions de l'audience. Et ensuite, je repasse sur la partie interview. Et après, à la fin, on refait un Q&A où tout le monde peut un petit peu poser les questions qu'ils peuvent avoir, etc. Et ça, en fait, l'avantage, c'est que c'est un bon moyen. Donc, il y a plusieurs choses. Mais tu vois, c'est le premier point, c'est déjà d'être de toi-même, être vu comme un expert. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait des trucs, par exemple, des webinars avec Aaron Ross, qui est l'homme qui a écrit genre la Bible sur le sales avec Predictable Revenue, où en gros, lui, si tu veux, il avait fait monter Salesforce de 1 à 100 millions de revenus. Et en gros, le mec est très, très connu aux US. Et en fait, le fait d'avoir fait son interview, ben en fait, on a pas mal parlé et discuté après. Il a vu que je m'y connaissais très bien aussi sur toute la partie outbound. Et en fait, il m'a invité à être speaker à une conférence aux États-Unis sur un truc international. Donc, c'était très cool, tu vois. Donc, ça, c'est un premier point qui est cool pour le business. Deuxième point, c'est que, évidemment, ta communauté, tu leur apportes vachement de valeur de pouvoir aussi poser leurs questions, participer à ce genre d'événement. Et après, en troisième point, c'est que tu te sers aussi de l'audience des gens que tu interviews pour potentiellement grossir la tienne. Tu vois, c'est pareil. Là, on fait un podcast. Quand il va être live, le podcast, bah, évidemment, je vais le partager soit dans notre newsletter, soit sur les réseaux sociaux, etc. Ça va driver aussi un peu de trafic, un peu d'écoute. Les gens vont aussi te découvrir. Et par conséquent, tu vois, c'est un partage. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est win-win, tu vois. Quand toi, tu m'interviews, bah, évidemment, moi, il y a ton audience qui va me découvrir. Mais il y a aussi, tu vois, mon audience qui va te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vois. Et ainsi de suite. Et je trouve que c'est un truc que j'aime bien. Et en plus, tu apprends vachement de choses dans les webinars. Donc, c'est toujours cool à faire, quoi.
C'est clair. Moi, si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais, quoi. Genre, allez, pas de la journée, je dirais 2-3 heures par jour, faire des webinaires, des collabs, des podcasts. C'est génial parce que, comme tu dis, c'est win-win. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont parfois des a priori sur les webinaires. Là, tu l'as dit, c'est un webinaire full value. Ouais. Où t'as beaucoup de valeur. Tu interviews un gars, tu lui poses des questions. Tu le fais aussi pour toi, parce que tu veux retirer l'information et apprendre des choses. Mais vous essayez pas de vendre le produit du début à la fin, quoi. Je suppose qu'il y a des mentions des produits de chacun durant le webinaire, mais c'est pas le focus, je pense, encore une fois.
Ouais, tu dit, encore, ouais, tu vois, enfin, je t'avoue, moi, en général, je parle même pas de l'AMLIS pendant les webinaires. Enfin, tu vois, je pose des questions et après, comme je fais venir des experts, bah, en fait, eux, en général, leur business, ça va être du consulting très high ticket, tu vois, donc plutôt type enterprise, tout ça. Donc, eux, leur but, c'est vraiment d'être vus comme des experts et de continuer de booster leur brand. Donc, ils sont pas forcément dans la vente et c'est ça qui est cool.
Ouais, ça c'est vraiment cool. C'est vrai que s'ils étaient dans la vente et qu'ils essayaient de vendre, pitcher leur service et tout, ça serait un peu dommage pour l'audience en soi. Et comment ça se passe? Comment tu tiens au courant les gens du webinaire? Est-ce que tu fais newsletter? Est-ce que tu fais là comme sur le blog?
En fait, on l'annonce en général sur mon profil LinkedIn en général parce que j'arrive à reacher quand même beaucoup de gens, tu vois, mais mes posts qui font pas beaucoup de reach, ils vont faire 20 000 views, et mes posts qui vont faire beaucoup de reach, ils font des centaines de milliers de views, tu vois. Donc à chaque fois, et ça c'est gratuit en fait. Enfin,
c'est puissant.
Et puis une technique qui marche bien aussi, c'est tu vois, tu crées un post, tu dis bah ok, les places sont limitées pour cet événement. Si vous voulez un ticket et une invite, commentez-moi et je vous l'enverrai directement en commentaire. Et là, tu vois, les gens commentent moi, et petit à petit, après, ça commence à booster, tu vois.
Oui, c'est clair, ça marche plutôt bien. Il y en a beaucoup qui abusent, j'ai l'impression, avec ça. Donc, j'ai l'impression que tout doucement, les utilisateurs sur LinkedIn sont un peu devenus à moitié allergiques à ça, mais il y en a toujours qui le font. Ouais. Et je vois une entreprise qui s'appelle Scalesia, et ils font beaucoup de posts comme ça. À chaque fois, c'est des posts qui sont viraux. Et c'est vrai que c'est une stratégie énorme, encore une fois, quand tu fais une stratégie de webinaire ou de chaîne YouTube, etc., et que tu fais des interviews, c'est que d'office, tu proposes d'envoyer le lien pour le webinaire si c'est en place limitée, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis, en fait, je pense, comme tu dis, faut pas trop le faire. Mais si, globalement, tu fais 90% du temps, tu apportes de la valeur avec tes posts et 10%, c'est un truc où tu récupères, bah franchement, les gens, ça les dérange pas trop, quoi.
Ouais, ça reste un post professionnel, comme tu le dis. Mais bon, après, tu l'as dit, le webinaire, vous vendez rien. Donc, en soi, c'est à moitié de la promotion, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et on termine ce super épisode sur le growth par une dernière interview que j'ai faite avec Arthur Samoro, qui est growth marketer chez Lifeez. Alors Lifeez est une entreprise qui a pour vocation de vous donner le pouvoir de sauver des vies, et pour ça, il propose un défibrillateur qui s'appelle Clark et qui est plutôt moderne et simple d'utilisation, et c'est un défibrillateur qui s'adresse aux particuliers et aux entreprises. Dans cet extrait, je vous repartage une des stratégies de growth de Lifeez, qui est l'optimisation de leur landing page et le type de test AB qu'ils mettent en place pour améliorer leur taux de conversion. Voilà, je vous laisse écouter ce dernier extrait.
Vous avez des bonnes landing pages. Je sais que vous avez fait un travail d'A/B testing dans le temps. Je ne sais pas du tout si vous le faites encore aujourd'hui, mais peut-être revenir sur vous. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez des landing pages dédiées pour chaque campagne digitale? Est-ce que vous avez des stratégies d'A/B testing que vous allez mettre en place régulièrement pour améliorer vos taux de conversion? Ça, je pense qu'on peut en parler.
Ouais, carrément. Du coup, pour répondre à ta question, oui, on a des landing pages dédiées pour les campagnes digitales qui vont s'adresser différemment en fonction des cibles. Mais on n'a pas assez de... Moi, à mon goût, on n'en a pas assez. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, avoir beaucoup plus de granularité en fait dans les messages que tu vas proposer en fonction des recherches, en fonction des messages que tu as. Mais c'est un travail, pareil, travail en cours, et un travail de tous les jours de pouvoir A/B tester des nouvelles choses et créer des nouvelles pages. C'est un peu la même rigueur qu'il faut avoir sur tes créas, où quand tu fais une créa Facebook, tu vas te poser la question de à qui je parle et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire. Quand tu fais une landing page, c'est quand il aura cliqué sur ta créa d'avant, sur quelle page tu as envie qu'il arrive et quel message tu as envie qu'il voit. Donc, il faut que ça soit quelque chose de cohérent, qui corresponde à ce qu'il a vu avant et que ça lui donne envie de passer à la prochaine étape, quoi. On A/B teste beaucoup, on fait beaucoup de tests sur nos pages. On utilise, pour créer nos landing pages, on utilise Webflow, qui est un outil assez génial pour créer plein de landing pages et affiner, en fait, faire des tests, etc. C'est hyper flexible, donc ça permet de tester plein de choses hyper rapidement. Et voilà, en gros, un petit peu là-dessus. C'est vraiment un travail qu'on fait tous les jours et qu'on suit de manière hyper importante. De toute façon, c'est hyper lié, quoi. Si tu fais la super acquisition et que derrière, tes landing pages, elles sont pas travaillées, il va rien se passer et inversement, quoi.
Ouais, c'est clair. Tu peux peut-être nous dire quels sont les types de tests que vous faites et à la limite, quels sont ceux où vous avez vraiment vu le meilleur pourcentage d'amélioration pour vos taux de conversion?
Moi, on catégorise plusieurs tests qu'on fait. T'as les tests qui sont purement de l'expérience utilisateur. Il y a des tests vraiment qui sont purement de l'ergonomie, quoi. De vraiment le bouton, il est bien placé, donc c'est plus simple d'aller cliquer là, ou alors il est plus visible, ou alors c'est ton menu est mieux fichu, donc en fait ça va mieux se passer dans l'expérience utilisateur. Ça c'est hyper important. Il y a tous les tests qui sont des messages ou des images, où là on va AB tester des messages, AB tester des visuels. Donc ça c'est vraiment plutôt c'est plutôt de la ouais des comment dire des c'est pas des tests de fonctionnalité mais plutôt des tests de visuels. Et après il y a tous les tests qui sont un peu les autres tests où on va faire pour résumer t'as les tests qui sont vraiment des fonctionnalités où c'est vraiment de l'expérience quoi, des boutons, des choses comme ça, t'as ouais. Les tests qui sont vraiment des visuels et après t'as les tests qui sont un peu hybrides où tu vas tester carrément un nouveau bloc sur ta page que t'avais ouais. Pas testé avant, tu vas réarranger toute ta page, tu peux tester carrément deux landing pages qui sont totalement différentes en termes de structure, tu vas tester d'afficher le prix tout en haut et le prix tout en bas, etc. Donc ça c'est des tests qui sont un peu différents parce que pour moi ça mêle un peu les deux, ça mêle le côté l'expérience utilisateur et la façon d'utiliser la page et vraiment le message aussi.
Ok, je vois. Et ça, avec Webflow, vous pouvez faire ce genre de test facilement et avoir des learnings entre les deux, la variable de contrôle et la variable, je ne sais plus comment on l'appelle, la variable de départ.
Hyper facilement. En fait, Webflow, c'est, tu peux créer des landing pages hyper facilement. Et donc, du coup, on fait quand même des améliorations qui sont assez petites pour pas que ça prenne... deux jours de faire une version B, quoi, mais en tout cas, on fait une version A, une version B, qui sont avec le test qu'on veut faire, et après, en fait, on envoie X% du trafic sur la voie A et X% du trafic sur la voie B, et en fait, ça, en fonction des objectifs qu'on a fixés, ça nous donne le résultat, quoi. Enfin, en fait, c'est la méthodologie d'un A/B test classique. Hein. Je suppose que j'apprends, je t'apprends rien, mais en tout cas, ouais, Webflow permet de faire ça très facilement et donc du coup, on l'utilise beaucoup. Ouais.
Bah, c'est vrai que moi, je suis pas un pro des A/B tests, honnêtement, en tout cas sur les landing pages. Est-ce que vous avez déjà une idée de, je pense que oui, une estimation de combien de trafic vous devez avoir pour vraiment dire ce test-là, il est, on peut l'implémenter définitivement sur le site parce qu'on sait que ça marche. C'est-à-dire combien de personnes doivent voir la variable de contrôle avant de vous dire ça marche ou ça marche pas.
Ouais, nous après, en fait, dans Google Optimize, t'as ce pourcentage-là de confiance que Google Optimize donne à tes deux versions. Il te dit ça, il y a X% de chances que ça soit la meilleure version, etc. Alors moi, je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant, mais j'aime bien quand même calculer les choses. Précisément, et donc du coup tu peux calculer le fait que ton test soit significatif, et donc la significativité statistique, ça se calcule avec une petite formule, et tu mets tes pourcentages et tes volumes, et en fait assez rapidement il te dit si ton test il a été significatif ou s'il n'a pas été significatif, et ça te permet de tirer des conclusions sur tes tests, quoi.
Ok, ça marche, top. Donc tu as des outils comme ça qui se retrouvent sur internet ou que vous avez créé vous-même?
Ouais, il y a des petits outils. Il y a un petit outil qui s'appelle Poll and Roll, je crois, qui te permet de calculer en rentrant 4 données, de savoir si ton test il est significatif ou pas.
Ok. Bah écoute,
c'est hyper important d'être significatif parce que si tu fais un test et que tu n'attends pas d'avoir un résultat qui est significatif, tu ne peux pas en tirer de conclusion, en fait. Parce que ton résultat est plutôt basé sur... la chance ou un contexte, etc. Donc il faut vraiment attendre que ça soit statistiquement significatif pour pouvoir vraiment te dire ok, là je suis sûr, il y a un résultat. Des fois il n'y en a pas, en fait. Ça peut être des fois t'as juste un résultat où la page, enfin ton test A équivaut à ton test B, et ça apporte pas de changement, mais quand ça en apporte, au moins t'es sûr que ça apporte un changement.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est le plus important dans l'A-B testing. Une fois que tu as trouvé les variables que tu veux tester, c'est de savoir si le résultat il est significatif ou non. J'ai pas l'impression qu'il y a un nombre pour tout, un nombre précis, mais il faut pouvoir utiliser un outil qui permet de le savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode et le format, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir notre communauté, même en été, de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.